Il fait bon aujourd'hui, hein. Il y a du soleil dehors. Et ça fait du bien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va s'arrêter sur une histoire d'Élie. Et on va lire ensemble. C'est dans 1 Roi. Au chapitre 17. Les versets 8 à 24. 1 Roi, chapitre 17, versets 8 à 24. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons et après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point. « Rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. » Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Pendant longtemps, il y eut de quoi manger, elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Verset 17. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils ?» Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai reçu comme un hôte ?» Et il s'étendit trois fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » L'Éternel écouta la voix de Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Et Élie dit, « Vois, ton fils est vivant. » Et la femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Amen pour cette belle lecture et cette histoire d'Élie. Mais juste avant, on doit comprendre un petit peu le contexte de cette histoire. Juste une petite introduction. À cette époque, le roi était Akab. Israël était déjà divisé en deux, 10 tribus du nord et 2 tribus dans le sud. Et Akab est le roi de ces 10 tribus. Et il est dit dans le chapitre 16, il était le plus méchant de tous les rois d'Israël. C'était le plus méchant de tous les rois d'Israël. C'est vrai que la plupart des rois étaient méchants ou ils tombaient dans certains péchés, mais il y avait certains qui avaient une repentance. Bien sûr, il faut attendre le vrai roi qui est Jésus, le roi des rois. Mais ce roi Acab est très, très méchant. Et en plus qu'il est méchant, il s'est marié avec une princesse païenne, Jézabel. Elle était sidonienne et elle a tout fait, cette femme, pour que son mari remplace le culte de l'Éternel par celui de Baal. Construire même un temple et un autel. Jézabel, elle voulait faire la religion principale de Baal. On disait, concernant Baal, que c'était le dieu de la pluie. C'était celui qui, ce dieu qui donnait la foudre et la pluie tombée. Et bien sûr, si la pluie tombe, beaucoup de choses poussent. Et on disait que c'était grâce à ce dieu Baal. Jézabel voulait faire la religion principale. Alors, ce n'est pas dans le contexte du message. Mais je voudrais ouvrir une parenthèse et la fermer tout de suite. Combien de fois on encourage le chrétien de se marier avec une chrétienne, la chrétienne de se marier avec un chrétien. C'est vrai qu'on le dit, parfois on se dit, « Ouais, mais tu nous embêtes avec ça. » Mais combien c'est important. Combien c'est important dans la vie de tous les jours. Combien on peut être tenté par l'un ou l'autre pour diriger dans un faux Dieu. Alors je referme cette parenthèse et qu'on puisse vraiment réfléchir. Alors, Élie va vers ce roi Acab et lui dit, il va avoir une sécheresse pour prouver à Acab et à tout Israël que le seul vrai Dieu n'est pas Baal, mais l'Éternel. Élie s'engage qu'il n'y a plus de pluie. Il prend la décision d'aller vers Acab et annoncer une sécheresse. Élie veut dire, on l'a dit, le Seigneur est mon Dieu. Et c'est son message d'Élie. Il annonce que Dieu est le seul vrai Dieu. C'est le Dieu vivant dans le chapitre 17 au verset 1. C'est lui le Tout-Puissant. C'est lui qui donne la pluie. C'est lui qui fait pousser tout ce que nous avons besoin pour vivre. Élie annonce que Dieu est le seul vrai Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Voilà pour l'intro. Élie doit maintenant partir à Sidon. C'est la région de Jézabel. C'est le cœur même de Baal. Dieu l'envoie, c'est lui. Dieu l'envoie. Mais il l'envoie chez une veuve pour être logé et nourri par une veuve. Généralement, c'est le contraire. On doit venir en aide vers les veuves. Parce que la plupart des veuves, c'était des femmes qui étaient pauvres. Ils n'avaient pas de revenus. Aujourd'hui, on a un revenu. Mais à cette époque-là, les veuves n'avaient pas de revenus. Et généralement, ces veuves étaient pauvres. En plus qu'elles étaient pauvres, il y avait une sécheresse. Ça veut dire qu'il n'y avait plus rien qui pousse, plus rien à manger. Qu'elle dit qu'il y restait qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Après, c'est la mort pour elle et pour son fils. On peut imaginer cette femme très, très mince, avec des traits et dans la souffrance. Elle se voit mourir, pas rien qu'elle, mais son fils également. Élie doit aller chez cette veuve pour être nourrie. C'est impossible. À la vue humaine, c'est impossible. Et pourtant, Dieu envoie Élie chez cette femme. Et nous voyons la première parole d'Élie à cette veuve, c'est « Va me chercher un peu d'eau ». Effectivement, Élie, il a fait 135 kilomètres, plus ou moins. Ça m'arrive de marcher avec mon épouse. Au début, on faisait 5-6 kilomètres. Maintenant, on arrive presque à 10 kilomètres. Et puis, quand on rentre, qu'est-ce que je fais? La première chose, je me remplis un grand verre d'eau et je bois. Myriam, elle prend une jubilaire et hop, elle avec la bouteille. Non, je rigole. Je rigole. Elle boit aussi un verre d'eau. Mais après une longue marche, c'est sûr qu'on a soif. Et c'est ce que Élie demande. Mais ça nous fait penser à quoi, mes frères et mes sœurs? Ça nous fait penser aussi à Jésus, quand Jésus était sur la route de Samarie. Élie s'en va de Samarie et Jésus va à Samarie. Et là, il y avait une Samaritaine en train de prendre de l'eau. Et Jésus, la première parole qui lui dit, « Donne-moi à boire. » Et si on se souvient cette histoire, c'est que Jésus devait passer par là parce qu'il avait rendez-vous avec cette femme samaritaine pour lui dire, « Le vrai Messie, c'est moi. Le vrai Dieu, c'est moi. » Et Dieu a un rendez-vous avec cette veuve, avec cette veuve païenne, pour lui dire, le vrai Dieu, c'est moi. C'est moi, le Dieu d'Israël. Cette veuve connaît l'Éternel, elle dit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Elle le connaît de nom, mais pas encore dans son cœur. C'est pourquoi Élie doit rester chez cette veuve et être nourri par elle. Puis Élie lui demande un morceau de pain. Et voilà que cette veuve lui dit qu'il reste qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Et après, c'est la mort. Pour elle et pour son fils. Élie entend cela. Et Élie lui dit, ne crains pas. Ne crains pas. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Élie veut en premier qu'elle prépare un gâteau ou une galette pour lui en premier. Et après pour elle et pour son fils. C'est pas juste, hein. C'est pas normal. C'est être, entre guillemets, égoïste. J'en connais que des enfants, moi en premier, moi en premier. Mais si on comprend bien, Élie avait dit, ne crains pas. Élie, lui, il savait que Dieu l'avait envoyé chez cette veuve pour être nourri. Dieu avait choisi cette femme veuve. Élie lui dit, ne crains pas. C'est lui dire, aie confiance en mon Dieu. Aie confiance en mon Dieu. Il t'a choisi. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera pas et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Une promesse que cette veuve et son fils ne vont pas mourir de la sécheresse. Quelle promesse! Quelle promesse! Elle doit mettre sa confiance sur le Dieu d'Israël et non sur Baal. Et on peut regarder cette veuve. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Déjà là, il y a un demi-tour. Cette femme fait un demi-tour vers l'Éternel. Mes frères et sœurs, la sécheresse, c'est dur. Je dirais même très dur. Jacques parle que cette sécheresse a duré plus ou moins 3 ans et demi. C'est beaucoup. Je me souviens, l'année passée, on a eu quand même un été très chaud. La pelouse était toute brune. Il ne faut pas demander 3 ans et demi. C'est quoi? Ça fait maintenant plus ou moins un an que nous sommes confinés à cause de cette épidémie. Et toutes les personnes qui sont seules, c'était déjà dur pour eux quand tout allait bien. Et voilà maintenant qu'il y a ce confinement. C'est encore plus dur, je dirais très dur, comme cette veuve. C'était dur d'être seul. Et voilà qu'il y a la sécheresse. C'est dur pour les personnes seules. Et entendre dire « ne crains pas », ce sont des paroles qui rassurent. Et aujourd'hui, le lire doit également nous rassurer pour toutes les personnes qui sont seules, mais aussi pour nous tous. Dieu nous a choisis. Nous sommes tous des païens et il nous a choisis. Nous devons lui faire confiance que le Dieu d'Israël n'est pas n'importe qui. Il est le Dieu vivant. En plus qu'il est le Dieu vivant, il est le Dieu tout-puissant. Et il est ton Dieu. Il est mon Dieu. Qui veut dire, je ne t'abandonne pas. Je connais ta situation. Je connais ce qui se passe aujourd'hui. La farine et l'huile qui est essentielle ne diminuera pas. Moi, je prends soin de toi. Peut-être tu ne vois pas tout, mais moi, je prends soin de toi parce que je te bénis jour après jour. Jésus a dit que nous sommes dans sa main, mais aussi dans la main du Père. Une main qui nous tient, mais aussi une main qui nous donne. C'est une main qui rassure. Soyons aussi comme Élie. Allons vers ceux qui sont seuls et leur dis que Dieu est vivant, qu'il est venu sur la terre dans la personne de Jésus-Christ et il est venu pour mourir sur la croix. Et il est ressuscité. Il nous demande de mettre notre confiance en lui. Et une fois qu'on a mis notre confiance, il y aura des jours de sécheresse. Et il est bon d'entendre, ne crains pas, je suis là. Ne crains pas, je suis le Dieu vivant. Voilà. La première chose. La deuxième, puis nous voyons que l'enfant meurt. Il ne sait plus respirer. Et cette femme dit, « Es-tu venu chez moi pour me rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils ?» À cette époque, beaucoup de personnes croyaient que Dieu punissait à cause de nos péchés. Ainsi, même les disciples, on peut voir. Même aujourd'hui, la plupart des chrétiens pensent comme cette femme. Il n'y a pas que les chrétiens, le monde aussi pense comme cela. Il dit souvent, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive telle et telle chose? On entend souvent cela. Je me souviens, quand je rendais visite à la prison, il y avait une personne qui voulait tout le temps me voir, toutes les semaines, pour me poser des questions sur Dieu, parce qu'il avait énormément de doutes sur Dieu. Et un jour, je n'ai pas été le voir directement, j'ai été voir une autre personne. Et cette personne m'a dit, Gino, tu as été voir tel détenu que j'allais voir toutes les semaines? Je lui ai dit, non, pas encore. Et il me dit, vas-y, Gino, il n'est vraiment pas bien. Et il me dit, son fils est mort d'un accident de voiture. C'est dur d'entendre cela. Et c'est dur d'aller voir cette personne. Je suis rentré chez ce détenu. Et la première chose qu'il me dit, tac au tac, il me dit, ne viens plus me voir. Ne viens plus me voir. Es-tu venu me rappeler les péchés que j'ai faits et pour faire mourir mon fils? C'est dur. Très dur. Mais regardons ensemble comment Élie agit. Quand il a entendu ces paroles, il n'a pas commencé à faire la morale à cette femme. Non. Il prend le fils dans ses bras. C'est là qu'on voit que son fils est très petit. Quasiment peut-être un bébé. Sinon, c'était lui qui aurait été chercher les bois pour cette veuve. Il le prend dans ses bras. Il va dans la pièce où il est logé. Et il va faire une chose remarquable, Élie. Il le prend et il prie. Il prie pour qui en premier? Pour cette veuve. Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu? Une prière d'Élie qu'il exprime toute sa compassion pour cette veuve. En plus des épreuves de la famine, maintenant elle affronte cette tragédie. Élie prie pour cette veuve. Une prière qui vient directement du cœur d'Élie. Est-ce que moi, j'ai prié pour ce détenu, pour cette tragédie? J'avais envie de lui parler, mais ce n'était pas lui parler. C'était de prier pour lui. Pour lui. Est-ce que nous prions pour ceux qui ont une tragédie? Je ne voudrais pas revenir sur ce qui s'est passé, mais est-ce qu'on a prié pour la maman de Jean-Paul qui a perdu son fils? Cette tragédie! Est-ce qu'on a prié pour telle et telle personne pour cette tragédie? Les personnes seules peuvent leur arriver encore des épreuves. Même si Dieu nous dit « ne crains pas », ça ne veut pas dire que plus rien ne t'arrive. Non. Mais il dit, je suis le Dieu vivant. Regardons la suite. Élie allonge l'enfant sur le lit. Et Élie s'allonge de tout son long sur l'enfant. Et Élie accomplit 3 fois le même geste. Chaque fois en demandant à Dieu de ramener l'âme à cet enfant. Élie persévère pour cet enfant. Élie prie pour cet enfant, mais il persévère. Et l'enfant est ressuscité. Et Élie le donne à sa mère. Quand cette veuve a dit à Élie, dans le verset 12, « Ton Dieu est vivant », ce sont des paroles. Mais là, elle a vu de ses yeux que Dieu est le Dieu vivant. Il est le Dieu qui ressuscite les morts. Il arrive des choses qu'on ne sait pas expliquer. On ne sait pas expliquer. Mais on sait que Dieu est le Dieu qui ressuscite les morts. Jésus a dit, celui qui croit en moi vivra quand même s'il serait mort. Lui faire confiance, ne crains pas, je suis le Dieu qui ressuscite les morts. Aujourd'hui, les spécialistes disent que ce confinement a fait beaucoup de mal aux enfants, aux jeunes. Ils se sentent renfermés. Et je dirais, comme cette histoire, ils n'ont plus de respiration. Entre guillemets, ils sont morts. Et nous sommes, nous, responsables dans le sens que nous devons être comme Élie, persévérer dans la prière pour les jeunes, pour les enfants, les entourer de nos bras et leur dire, nous sommes avec vous dans cette souffrance. Il est le Dieu vivant et le Dieu qui ressuscite, mais aussi il est le Dieu des enfants. Laissez venir à moi les petits-enfants. Nos prières pour les enfants, c'est aussi de prier pour que ces enfants puissent revenir vers le Dieu qui est vivant. C'est notre prière. Cette femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Cette femme connaissait l'Éternel de nom. Mais maintenant, elle dit, mais maintenant, aujourd'hui, elle le connaît de son cœur, dans son cœur. Comme la Samaritaine, elle est partie en courant dire à tout le village, c'est celui qui m'a dit la vérité. Voici le Messie. Dieu avait un rendez-vous avec la Samaritaine. Dieu avait rendez-vous avec cette veuve. Mes frères et sœurs, un jour, il a eu rendez-vous avec nous. Et maintenant, il nous dit, ne crains pas, je suis avec toi. Je sais ce qui se passe. Je sais aussi ce qui se passe pour les enfants. Mais nous avons à faire, c'est de prier pour les uns et pour les autres. Nous devons être comme Élie, agir, prier, avoir de la compassion, avoir un cœur pour les uns et pour les autres. Et de dire aux uns aux autres, laisse le Seigneur est mon Dieu. Et tous ceux qui sont alentour de nous verront que Dieu est le vrai Dieu. Amen.